une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncer, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je vais laisser la parole à Cathy Togon, journaliste économique pour le magazine de pédagogie économique Pour l'Éco. Salut Cathy.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de nappes phréatiques, de mégabassines et de Dunkerque.
Oui, l'eau coule à flot dans nos robinets sans que l'on se préoccupe vraiment de sa facture à la fin du mois. Pourtant, la ressource pourrait manquer. La situation était très alarmante début avril 2023. Trois quarts des nappes phréatiques enregistraient des niveaux bas à très bas. Les pluies du printemps ont permis aux nappes phréatiques de se recharger, mais trois zones restent dans un état préoccupant. On y reviendra.
C'est la caca, c'est la cata, c'est la
catastrophe.
La catastrophe, merci de suivre, mesdames.
Le nouvel enjeu de l'économie, c'est de faire coïncider le prix d'une ressource, c'est-à-dire couvrir les coûts de son prélèvement et de son acheminement, de son traitement en termes de capital humain et technique, avec les conséquences qu'engendre son usage sur l'environnement, ou plutôt sa véritable rareté. Parce que l'économie, finalement, c'est ça, c'est la science de la rareté. Pour ça, il faut intégrer ce qu'on appelle les externalités négatives. Le prix d'une ressource n'est plus simplement dicté pour couvrir la somme des investissements financiers nécessaires, mais il peut être modulé artificiellement pour désinciter à la surconsommation. On appelle ça le signal prix. Et ça s'applique précisément pour l'eau, parce qu'on a l'impression qu'elle existe en abondance, le grand circuit de l'eau, avec la pluie, les lacs, les rivières. Particulièrement en France, où, comme je l'ai dit, l'eau potable coule au robinet sans interruption et à un prix relativement accessible, on y reviendra. Alors les économistes s'accordent sur deux points. Premièrement, il faut couvrir des coûts d'infrastructure que le grand public connaît mal, le petit circuit de l'eau. Et deuxièmement, il faut rendre compte de la vraie valeur de l'or bleu. Parce que cette année particulièrement, et ça ne va pas aller en s'améliorant, la situation est critique. Alors, pourquoi l'eau doit être plus chère ?
Bon, mais avant toute chose, Cathy, pourquoi est-ce qu'il est urgent de limiter la consommation à l'échelle nationale ?
Pour te répondre, je mets la casquette de Miss Météo un instant. En France métropolitaine, les pluies apportent en moyenne 512 milliards de mètres cubes d'eau par an. Une partie de l'eau s'évapore ou retourne à la végétation, au sol, etc. L'autre partie, environ 40%, 200 milliards de mètres cubes d'eau, constitue la pluie efficace, c'est-à-dire l'eau disponible pour alimenter les cours d'eau et les nappes souterraines. Dans le même temps, on prélève 31 à 34 milliards de mètres cubes, ce qui représente environ 15% de cette pluie efficace. Vous me direz du coup, pas de problème, nos besoins sont largement couverts. Mais non, les plus forts prélèvements ont lieu en été lorsque la disponibilité de la ressource est la plus faible. À partir d'avril, les pluies deviennent plus ponctuelles et perdent en intensité. Les nappes se rechargent donc moins au printemps que pendant l'hiver. Or, 60% des consommations en eau ont lieu entre juin et août, alors que seulement 15% du volume annuel d'eau douce s'écoule sur le territoire à cette période. Ce qui peut provoquer localement de fortes tensions et des pénuries temporaires. La situation est tendue parce qu'on avait déjà enregistré des déficits pluviométriques à l'hiver 2021-2022 et que donc, on a beaucoup sollicité les nappes au printemps et à l'été 2022. Et qu'elles ne se sont pas assez rechargées pendant l'automne et l'hiver 2022-2023. Heureusement, il a beaucoup plu au printemps 2023. Mais sur le sud du territoire, les pluies infiltrées en profondeur ont été insuffisantes, voire inexistantes. Et les niveaux sont généralement en baisse. Des nappes risquent de se retrouver à sec et des restrictions d'eau souterraine seront vraisemblablement prises en 2023. Particulièrement, attention, petit tour de France, du Dijonais au Bas-Dauphiné, dans le Roussillon, ainsi qu'en Provence et Côte d'Azur. Et c'est un cercle vicieux, parce que qui dit manque d'eau, dit besoin d'arrosage. Le début précoce des campagnes d'irrigation pourrait aggraver la situation des nappes.
Alors forcément, ça veut dire que les agriculteurs sont dans le viseur.
Et oui, parce qu'ils sont à l'origine de 45% de la consommation d'eau, selon les calculs. Marielle Monginoul est économiste à l'INRAE. Ses travaux portent sur la demande en eau des ménages, des agricultrices et des agriculteurs. Elle analyse les évolutions passées et imagine la gestion de l'eau dans le futur.
Quand on discute avec les agriculteurs, il y en a beaucoup qui ont déjà fait beaucoup d'efforts sur la consommation d'eau. D'autre part, eux, ils utilisent cette eau comme ce qu'on appelle une consommation intermédiaire, puisqu'ils vont produire après des produits qu'ils vont vendre sur le marché et qui vont nous satisfaire, puisqu'on va pouvoir les acheter pour manger, pour se nourrir. Donc, on voit que pour eux, la consommation d'eau, c'est une consommation intermédiaire qui va servir au processus de production. Et quelque part, on est aussi un peu coupable parce que on a besoin de produits alimentaires et agricoles qui consomment de l'eau.
Mais alors, comment ça marche ? Les agriculteurs ne sont généralement pas reliés au réseau d'eau potable, pour plusieurs raisons.
Quand on irrigue les cultures, généralement, on prend de l'eau brute. Donc, on peut la prendre dans la rivière carrément, directement. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont un prélèvement, ce qu'on appelle individuel, dans la rivière ou dans la nappe directement, avec un forage.
Dans ce cas-là, l'agriculteur paye l'énergie nécessaire au pompage et le prix dépend du type d'énergie qu'il a choisi. Gaz, électricité, essence. Grosso modo, ça lui coûte entre 2 et 3 centimes le mètre cube. À cela, s'ajoute une redevance qu'il doit à l'agence de l'eau locale, elle-même de l'ordre de 2 à 3 centimes le mètre cube.
Par contre, on peut aussi avoir des coûts de prélèvement qui vont être bien plus élevés si l'agriculteur, il est dans un réseau d'irrigation. Aussi, la manière dont ce réseau d'irrigation est géré. Il y a parfois ces réseaux d'irrigation qui ont été financés en partie par des subventions vont avoir un coût d'irrigation, un coût de l'eau qui va être moindre que s'il n'y avait pas eu ces financements de la puissance publique. Et donc, on va avoir des prix de l'eau qui vont être différents, en fait. Grosso modo, dans des réseaux d'irrigation qui sont bien gérés, on peut dire que ça coûte entre 20 et 30 centimes le mètre cube.
Ces sommes paraissent anodines, mais en fait, elles ne le sont pas du tout.
Et quand on fait des calculs pour savoir combien les agriculteurs pourraient payer en plus sans arrêter de produire, eh bien, les marges de manœuvre souvent sont assez limitées. En tout cas, avec les cultures qu'ils ont actuellement. Augmenter le prix de l'eau va demander un effort aux agriculteurs qui font que parfois ils vont devoir changer de culture pour pouvoir s'en sortir.
Mais alors, est-ce que les agriculteurs sont les seuls à devoir faire des efforts ?
Je ne parle pas ici du nucléaire, bien qu'il représente 31% de la consommation d'eau en France, parce que pour refroidir ces réacteurs, l'eau est directement prélevée dans la mer ou dans les fleuves, puis réintroduite à 97% dans le milieu d'origine. Il n'y a donc, dans la majorité des cas, pas d'évaporation ou d'absorption par les sols. La seule conséquence, mais pas des moindres, c'est que cette eau ressort plus chaude et modifie donc la biodiversité des cours d'eau.
C'est un bordel.
Les usages industriels, eux, représentent 4% de la consommation d'eau. En fait, après les agriculteurs, le plus gros poste de consommation d'eau, c'est l'eau potable, autrement dit, les usages domestiques. Ils représentent 21%. Et là, la facture est bien plus complexe et bien plus salée. J'ai demandé à Marielle Monginoul ce qui se cache derrière.
Le coût de l'eau comporte plusieurs parties, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. En fait, donc déjà, il y a le coût de prélèvement de l'eau. Ensuite, il y a le coût de traitement de cette eau s'il y en a besoin, qui peut être plus ou moins importante selon l'eau que l'on prélève, que l'on utilise. Ensuite, il y a le coût de distribution de l'eau, puisqu'on va prendre de l'eau, on va la traiter dans une usine de traitement, et puis après, on va l'amener aux usagers. Donc, si la station est proche des usagers, ça coûte moins que si, naturellement, il y a des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Ensuite, il y a le coût où on va récupérer l'eau qui a été utilisée, donc l'eau usée, donc avec encore des canalisations pour aller jusqu'à la station d'épuration. Ensuite, on va avoir des coûts de traitement de cette station de l'eau usée et ensuite, ça va être rejeté. Donc, le coût de l'eau, ça, c'est vraiment tout ce cycle qui va du prélèvement jusqu'au traitement de l'eau qui a été usée et qui est rejetée dans le milieu. C'est donc quelque chose d'assez complexe.
Chacune de ces étapes coûte plus ou moins aux citoyens selon la topologie de leur région. Le prix est fixé par les villes qui détiennent la compétence de l'eau. Elles choisissent parfois de la déléguer à des entreprises privées, mais depuis les années 2000-2010, la tendance est plutôt à la municipalisation. Malgré la diversité du système en France, il existe une fourchette de prix pour les particuliers plutôt similaire. Marielle Monginoul.
Les enquêtes actuelles donnent un prix de l'eau autour de 4 euros le mètre cube. 4 euros le mètre cube. Et généralement, on peut considérer qu'un ménage actuellement consomme plutôt autour de 100 mètres cubes. Alors, je sais que la norme, on dit que c'est 120, mais c'est plutôt autour de 100 que l'on a à peu près la moyenne en France. Donc, on a un budget d'eau qui tourne autour de 400 euros par an. Par an et pour un ménage, disons de 4 personnes, mais avec 100 mètres cubes, on peut bien vivre, hein.
4 euros le mètre cube à 100 mètres cubes par an, ça donne une facture annuelle de 400 euros, ce qui représente 0,87% du budget des ménages. À titre de comparaison, ces mêmes ménages ont dépensé en moyenne 1720 euros pour leur consommation d'énergie dans le logement en 2021. C'est 4 à 5 fois plus.
Ah ouais, quand même.
Les gens doivent comprendre que l'eau est un bien qu'il faut préserver. Ils doivent aussi avoir une idée réelle du coût que cette eau nécessite pour être utilisé, pour être amené chez eux, pour être retraité ensuite et pouvoir retourner dans l'état le plus acceptable dans la nature. Donc, pour moi, il est très important que la facture d'eau soit bien proportionnée par rapport aux coûts qui sont supportés.
Et pour inciter à moins consommer, Marielle Monginoul a plusieurs solutions. Le prix en fait partie, mais ce n'est qu'un pilier.
Je parle en tant qu'économiste. On a généralement deux manières. Soit on va agir sur la quantité, et donc on va essayer de donner aux gens une quantité maximale pour prélever de l'eau. Donc ça va être par exemple des quotas d'eau. On va donner à telle personne l'autorisation d'utiliser tant d'eau et à telle autre tant d'eau. Donc ça, c'est une manière de faire qui est une régulation par la quantité. Cette régulation par la quantité, elle peut aussi être un peu faite de manière moins évidente, c'est-à-dire que par exemple, on peut avoir des moments durant lesquels on a le droit de prélever de l'eau et à d'autres moments, on n'en a pas. C'est par exemple quand on est en arrêté sécheresse, en été, on va dire aux gens, vous n'avez pas le droit d'arroser votre pelouse pendant la journée.
On oppose généralement à cette régulation par la quantité, la régulation par le prix.
Si on met en place un prix au mètre cube, les gens vont se rendre compte que l'eau a une valeur qui est là et qu'il faudra qu'ils payent à chaque fois qu'ils utilisent cette eau. La régulation par les prix, normalement, va induire une incitation à l'économie. Ça, c'est les deux premiers piliers, les plus gros piliers pour inciter à réduire la consommation.
Le troisième pilier consiste à informer. Marielle Monginoul parle de régulation par la sensibilisation.
Donc, demander aux gens d'économiser de l'eau, d'expliquer pourquoi il faut l'économiser, etc. Et cette sensibilisation, mine de rien, a été un des moteurs qui a expliqué le fait que depuis 20 ans à peu près, on a quand même une diminution de la consommation en France. Et puis aussi, il y a eu des appareils hydroéconomes qui se sont de plus en plus développés avec des machines qui sont plus économes en eau et donc de manière un peu automatique, les gens consomment moins d'eau. Voilà un peu les trois piliers qui font qu'on peut agir sur la consommation. Donc, la quantité, le prix et la sensibilisation ou ce qu'on appelle la persuasion. Par contre, de manière indépendante, il faut aider les plus pauvres à accéder à ce bien qui est important.
Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des communes de France, le tarif est constitué d'une part fixe, d'abonnement, et d'une part variable, directement liée à la consommation. Mais que l'on consomme peu ou énormément, le prix au mètre cube est le même. Le prix n'incite donc pas particulièrement à l'économie.
Alors, est-ce qu'on pourrait trouver une autre manière de fixer les prix pour inciter à l'effort ?
Oui, Emmanuel. Depuis une dizaine d'années, des communes, souvent écologistes, ont décidé de mettre en place une tarification progressive. Les premiers mètres cubes sont peu chers, voire même gratuits, mais au-delà d'un certain volume de consommation, les prix s'envolent.
Vers l'infini et au-delà !
Cela permet aux plus gros consommateurs de couvrir les coûts pour l'approvisionnement en eau des plus démunis, pour qui ça représente une proportion du budget plus importante. À Dunkerque, par exemple, le mètre cube a longtemps été facturé plus d'un euro avant la mise en place de la tarification progressive. Mais une fois la nouvelle grille de tarifs en place, le prix est tombé à 80 centimes. Pour les 75 premiers mètres cubes. Cette baisse a été compensée par l'augmentation du prix à 1,5 euros pour les consommations entre 75 et 200 mètres cubes par an, et même 2 euros au-delà. Cette tarification progressive a permis de diminuer la consommation de la ville de Dunkerque de 8 à 10%, selon Alexandre Mailleul, maître de conférence en économie à l'Université de Lorraine. Des chiffres réjouissants pour le gouvernement qui entend généraliser cette mesure à tout le territoire. Mais il reste quelques ajustements à faire pour qu'elle soit vraiment juste. Marielle Monginoul.
À Montpellier, il y a beaucoup de logements collectif. On a exactement la même chose à Paris, où vous avez des immeubles qui ont un seul compteur. Si on met en place une tarification progressive en disant les 100 premiers mètres cubes sont à ce tarif, et puis après, si on va au-delà, ça va être un tarif bien plus élevé, tous les gens de l'immeuble vont devoir payer ce tarif plus élevé, pas parce qu'ils économisent de l'eau, mais parce qu'ils sont dans un logement collectif. Donc, on voit que la tarification progressive peut avoir des inconvénients. Après, ça va au contraire ne pas impacter des gens que l'on pourrait essayer d'impacter. Par exemple, les résidences secondaires qui ne consomment pas beaucoup d'eau parce qu'ils sont pas là souvent, mais qui consomment peut-être autant d'eau qu'un usager qui est là pendant toute l'année. Donc, la tarification progressive est compliquée à mettre en place ou du moins à paramétrer.
Ces résolutions prises dans le cadre du plan eau, présenté fin avril, visent pour le gouvernement à réduire de 10% en moyenne sur le territoire l'exploitation de l'eau de tous les secteurs d'ici 2030. La tarification progressive est-elle alors la solution magique pour atteindre cet objectif ? Marielle Monginoul répond.
Voilà, la solution magique, c'est de dissocier les choses. Dans la tarification, telle qu'on l'a vue là, on va essayer d'atteindre, dans ces cas-là, deux objectifs. Déjà, c'est beaucoup. L'objectif d'équilibre budgétaire et d'incitation à l'économie. Pour ça, moi, je verrais bien une tarification qui peut être progressive, mais qui va, par exemple, pour mes compteurs collectifs, faire en sorte qu'on dise la première quantité d'eau, on compte le nombre de logements et on va dire, eh bien, pour un collectif, il y a 100 logements ici, donc on multiplie la première part par 100 logements pour que tout le monde ait quand même cette première part dans l'immeuble, par exemple. D'un autre côté, le fait de mettre en place une tarification progressive comme ça, avec un premier seuil qui correspond à un logement particulier, ça va peut-être inciter les gens aussi à avoir des compteurs individuels et donc à mettre en place dans les endroits où on a des immeubles des solutions individuelles qui vont permettre peut-être aux gens de se rendre compte plus facilement de la quantité d'eau qu'ils consomment.
Mais pour une répartition de l'eau plus juste, Marielle Monginoul va plus loin et propose autre chose.
Une aide qui soit déconnectée. Ça va être, par exemple, actuellement, il y a certaines collectivités qui mettent en place ce qu'on appelle des chèques eau ou qui vont envoyer via des solutions électroniques de l'argent aux personnes qui sont dans le besoin.
Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire pourraient par exemple recevoir ce chèque ou une réduction automatique de leur facture d'eau. Mais malgré cette aide ciblée, le principe de la tarification progressive, c'est quand même de faire reposer l'économie d'eau sur les usages domestiques.
Pour moi, c'est vraiment sur l'ensemble des parties prenantes qu'il faut faire porter l'effort.
On vient de parler des particuliers. Plus tôt, on a montré tous les enjeux autour des agriculteurs. Mais les secteurs industriels, énergétiques et touristiques doivent aussi participer à l'effort, non ?
Oui, mais là, le prix n'a qu'un impact limité. Et ce sont tous leurs modèles qu'il faut repenser.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs, comme toute entreprise, a besoin de temps pour s'adapter. On ne passe pas d'une culture à une autre aussi facilement. On a en plus souvent fait des investissements qui sont perdus si on les rentabilise pas à ce moment-là. Donc, il faut aussi accompagner les agriculteurs pour ce changement.
Cet argument, c'est un des axes de défense de ceux qui promeuvent les méga-bassines, ces piscines géantes qui vident les nappes phréatiques l'hiver. En attendant que les agriculteurs changent de culture, ce qui prend du temps, ils ont besoin d'irriguer, même en période de sécheresse. Mais ça pose plein de problèmes environnementaux.
Oh putain !
Et ça vaudrait un épisode entier sur la question. Marielle Monginoul reprend.
Là où on a plus de possibilités peut-être d'agir, c'est justement sur les usages qui sont vraiment très secondaires. L'arrosage des ronds-points en est un exemple flagrant. Sur les piscines, pareil, on peut réfléchir à ça, ou on pourrait imaginer aussi des mouvements qui vont vers, par exemple, une piscine qui serait plutôt sur un lotissement et pas des piscines individuelles. On pourrait imaginer des solutions un peu plus conformes. Et puis après, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier un usage que l'on met de côté souvent, c'est tout ce qui est les usages qui ont trait au tourisme. Quand on regarde, que ce soit dans les infrastructures hôtelières et notamment tout ce qui est camping et tout ça, il y a beaucoup de consommation qui pourrait être revue notamment. Donc, et puis après aussi les infrastructures de plein air pour le tourisme notamment.
En clair, l'eau coûte aujourd'hui peu alors qu'un prix plus élevé pourrait servir à protéger la ressource, notamment en sensibilisant sur sa rareté. Mais le prix ne peut pas tout. Et comme pour la transition énergétique, il faudrait penser à une transition hydraulique. Des cultures agricoles endémiques destinées à une consommation humaine, alors qu'aujourd'hui 70% des terres irriguées en France sont utilisées pour nourrir le bétail. Nous, humains, devons aussi manger local et de saison, c'est impératif pour limiter la consommation en eau des agriculteurs. Mais les politiques publiques doivent aussi repenser les villes pour qu'elles deviennent éponges, c'est-à-dire capables de laisser les sols absorber les pluies et limiter les usages de l'eau superflue, comme certains arrosages ou le remplissage des piscines individuelles. D'autres pistes plus structurelles sont envisageables, comme repenser le circuit de l'eau pour dissocier l'eau potable de l'eau non potable, même pour les usages domestiques, éviter les pertes dans les réseaux de canalisation, aujourd'hui estimées à 20%, et une meilleure gestion politique, avec une feuille de route nationale assez souple pour que chaque commune puisse se l'approprier selon les contraintes de son territoire.
Merci Cathy pour cet épisode qui montre qu'il y a encore des efforts à faire pour mieux gérer l'eau, non seulement à un niveau individuel, mais aussi en laissant davantage les collectivités locales choisir et décider quels usages doivent être prioritaires ou limités. Cette problématique réinterroge tout le circuit de la prise de décision pour que celle-ci soit adaptée à chaque territoire selon ses besoins en eau. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et que vous aimez Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain!
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Cathy Degon, en compagnie d'Emmanuel Martin, prise de son, montage et mixage Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio, réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi.